Il est 12h15 et le journal vous est présenté par Josette Sédou. Bonjour.
Bonjour. 200 ans d'histoire horlogère sous les yeux du public à Saint-Imier. Saint-Imier qui fait désormais partie intégrante de la Biennale de l'horlogerie qui a lieu en ce moment. Pourquoi des portes ouvertes aujourd'hui alors que cette horlogerie était en milieu très discret sur sa fabrication? Eh bien, on a rencontré le responsable de l'héritage de la marque Longines pour nous parler de ça. Ils subissent la loi d'Internet, les petits commerces de la région ferment et ça pourrait à l'avenir impacter le service commun. Pour les vélos, il faudra désormais faire des kilomètres pour réparer son vélo dans le haut du vallon de Saint-Imier. Le dernier magasin a mis la clé sous la porte, on en parle tout de suite. Dernier match pour le HC Bienne avant la pause. Les Célandais se déplacent à Genève pour leur dernier coup de patin et on n'y va pas forcément avec la confiance toute gagnée. On entendra notre consultant sportif. Météo, du brouillard en majorité en plaine et le soleil qui brille en dessus de 700 à 900 mètres. La bise va ensuite brasser les stratus un petit peu plus haut. On attend 12 degrés en plaine, 9 dans les vallons. Les portes s'ouvrent sur 200 ans d'histoire du savoir-faire horloger de Saint-Imier. La Biennale du patrimoine horloger a lieu pour sa 11e édition au Locle et à la Chaux-de-Fonds, avec la cité imérienne désormais partie intégrante de la manifestation. La ville de Saint-Imier ne serait pas ce qu'elle est sans l'implantation de l'horlogerie. C'est le propos de Daniel Hougue, le responsable de l'héritage de la marque Longines. Il a fait une de ses rares apparitions ce matin à Saint-Imier à l'occasion de la Biennale. Ouvrir ses portes, ça a du sens. Pas que pour la marque en elle-même, mais pour tout le réseau dont elle dépend. On écoute Daniel Hougue.
Je pense que c'est important qu'on garde les liens avec le public parce qu'ici, nous sommes au sein d'une culture horlogère qui consiste pas seulement simplement des marques qu'on connaît, mais aussi de beaucoup de fournisseurs qui sont par la majorité dans cette région, qui sont situés dans cette région, des spécialistes pour les cadrans, pour les couronnes, pour les rouages des montres. Et ça, c'est important qu'on ait conscient qu'on existe aussi seulement parce qu'on a les gens qui sont doués à tout faire dans cette précision dont on a besoin.
Jusqu'à il y a à peu près 15 ans, c'était une industrie plutôt discrète. Comment ça se fait qu'il y a eu ce besoin d'ouverture qui nous a mené jusqu'à ces portes ouvertes?
Je pense qu'il y a beaucoup de marques, il y a l'intérêt de garder les petits secrets pour eux, dans la fabrication, donc comment ils essaient de produire quelques composants clés d'un mouvement peut-être. Donc il y a cette volonté de sauvegarder où on est un peu en avant auprès des concurrents. Mais en même temps, je pense qu'il faut une certaine ouverture parce qu'on a besoin des collaborateurs, des collaboratrices qui nous aident à produire ce qu'on doit faire. Et on ne peut pas se fermer complètement. Ici, en Jura bernois, ça compte aussi pour tout le Jura, on a des conditions de travail qu'on peut absolument montrer à tout le monde. Et on peut être fier de notre métier, de notre maîtrise, de faire les choses avec soin, avec attention. Et ça, je trouve, il faut présenter à tout le monde.
C'était Daniel Hougue, le responsable de l'héritage de la marque Longines. La Biennale du patrimoine horloger s'achèvera par la 48e bourse suisse d'horlogerie au Musée international d'horlogerie demain à La Chaux-de-Fonds. Et une autre manifestation ce week-end, cette fois pour les papilles. Neuchâtel se transforme en capitale du chocolat dès aujourd'hui, et ce pour une semaine. La 11e édition de Chocolatissimo, qui mêle sport et chocolat, propose des démonstrations, des animations, des spectacles et aussi des dégustations. En lien avec cette thématique, 3 nouvelles saveurs de plaques sont proposées, comme lors de chaque édition. Un chocolat blanc aux tomates séchées et graines de courge, un chocolat au lait aux spéculoos, granola et noix de pécan, ainsi qu'un chocolat noir aux figues et nougat sont à déguster cette année. Les petits commerces subissent la loi des achats sur Internet, ce qui impacte le service aux consommateurs. Dans le domaine des vélos, cela pose question. Par exemple, les cyclistes de la région du haut du vallon de Saint-Imier devront faire des kilomètres pour faire réparer leur vélo, car il n'y a désormais plus de magasins de vélos à Saint-Imier. L'entreprise Dubraquet a mis la clé sous la porte de sa succursale dans la cité imérienne après 2 ans d'exploitation. Pour le gérant qui conserve son autre magasin à La Chaux-de-Fonds, pas facile de pouvoir prédire ce qui va marcher ou pas. On écoute Julien Bouille, propriétaire du magasin du Braquet.
La première année, on ne peut pas juger parce que les clients doivent apprendre à nous connaître. Donc, sur la première année, on ne peut pas tirer un vrai bilan. Mais sur cette deuxième saison, là, on s'est aperçu que les volumes de vente de vélos neufs étaient clairement insuffisants, bien que le volume de service était, lui, satisfaisant.
Donc, c'est quoi qui vous rapporte le plus, finalement ? Grâce à quoi un magasin de vélo peut tourner ?
Alors, un magasin de vélo tourne très, très difficilement si on a que du service mécanique. Ça, c'est une évidence. Il faut absolument qu'on ait quelques ventes annexes, que ce soit en accessoires ou alors de vélo neuf. Mais actuellement, on s'aperçoit que les gens font malheureusement de plus en plus d'achats sur Internet. Et puis, on en est peut-être le site, du moins le site de Saint-Imier, on est peut-être une victime.
Vous aviez deux enseignes, du coup, une qui reste à la Chaux-de-Fonds. C'est pas pareil à Chaux-de-Fonds. Comment vous expliquez ça ?
Ouais, en effet, hein, y a une différence entre la Chaux-de-Fonds et Saint-Imier. Alors, il n'y a que 17 km qui séparent ou qui séparaient les deux magasins. Mais on voit clairement une différence dans le pouvoir d'achat. Le panier moyen, lorsque les gens achètent de l'équipement ou du vélo neuf sur le site de la Chaux-de-Fonds, est environ 30 à 35% supérieur à ce qu'on a pu expérimenter sur le site de Saint-Imier. Et ça, je dois dire que c'était un peu une surprise pour nous. C'est comme si le pouvoir d'achat sur cette localité ou cette région était un petit peu plus bas.
Le propriétaire du magasin confie que l'effet yo-yo sur les ventes après le Covid n'a pas aidé les prix à rester stables et à fidéliser la clientèle au magasin de vélo. Les Verts Suisses organisent aujourd'hui leur premier sommet du changement à Bienne. Informations, débats, échanges, notamment dans des groupes de travail, seront organisés sur le thème de la société post-croissance. La plateforme réformiste s'est trouvée un nouveau président. L'aile droite du Parti socialiste suisse a remplacé le biennois Eric Fer, démissionnaire, par le Zurichois Daniel Jostitsch lors d'une assemblée générale qui s'est tenue hier à Zurich. Et puis dans l'actualité internationale, 4 jours après les tragiques inondations qui ont endeuillé le sud-est de l'Espagne, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé l'envoi de 5000 militaires et de 5000 policiers et gendarmes supplémentaires pour aider à la recherche de disparus et aussi à la remise en état des localités ravagées par les torrents de boue. Dans la banlieue de Valence, on attend un ciel clément aujourd'hui, mais l'agence de météo a averti que de fortes précipitations auraient encore lieu dans le nord de la région. Placé en alerte orange.
Il est 12h23, vous écoutez RJB.
Sport. Les derniers coups de patin avant une pause bien méritée. Le HC Bienne se déplace à Genève à 19h45 dans le cadre du championnat de National League. Il s'agit du dernier match avant la trêve internationale. Une pause qui permettra de reposer les organismes qui ont beaucoup donné. Et cela pour obtenir de bons résultats avec encore une belle victoire acquise hier soir aux prolongations contre Ambry. Mais ce ne sera pas chose aisée de décrocher encore de nouveaux points au Vernet, selon notre consultant Marc-Alain Parot.
Ce sera un match très difficile. On sait que Genève, à la maison, ils sont très forts. Ils auront un public impressionnant avec une ambiance stratosphérique. En plus, ce soir, ils ont gagné à Lugano, qui est aussi une équipe qui revient fort dans le championnat. Donc, il y aura un long voyage quand même qui est peut-être un point positif pour Bienne. C'est qu'ils ont joué à la maison. Ils pourront aller tôt se reposer, être en forme pour aller sur leur déplacement du côté du Léman. Mais Genève a un très, très long déplacement. C'est la traversée de la Suisse. Ils sont au Tessin, ils doivent rentrer. Ils vont rentrer au milieu de la nuit. Et demain, ils vont être très très vite dans le match contre Bienne.
Et surtout, Bienne arrive avec la confiance.
Oui, effectivement. Donc, on a eu un faux pas mardi où on avait une équipe Bienne qui avait peut-être un peu moins de jus dans le moteur. Mais ce soir, on a vu une réaction. Le premier tir n'était pas forcément exceptionnel. On a un peu fait le dos rond. On a eu une ou deux occasions. Le deuxième tir, on est monté en puissance. On a pu profiter de ce power play qui a marqué un but pareil, très important, qui nous a relancé dans le match. Le troisième tir, on était bien là. On a eu nos occasions. On les a poussés. On a essayé de gagner cette victoire dans le temps réglementaire. Ce qui n'est pas réussi, mais en prolongation, on a été ultra dominant et on a eu très nombreuses occasions pour gagner ce match. Et ben voilà, on a un magnifique solo de Luca Conti qui peut transmettre à Offert puis nous donner cette victoire qui a fait beaucoup de bien au moral.
Des propos recueillis par Loïc Georgi. Genève Servette HC Bienne, une rencontre à vivre en direct sur RJB dès 19h30 avec Jérémy Pignard au commentaire. Et puis le HC Bienne pleure son ancien entraîneur Kim Collins. Le Canado-Allemand est décédé à l'âge de 62 ans, selon une annonce publiée ce matin par plusieurs de ses anciens clubs. Il avait notamment mené les Seylandais à 2 titres de Ligue National B en 2006 et 2007, sans toutefois parvenir à hisser le club en première division. Le HC Tramelan veut rester invaincu. Il accueille Valleju à 17h45 et compte bien l'emporter contre le premier relégable de première ligue de hockey sur glace. Mais attention au piège face à des Vaudois qui restent sur 2 victoires. Une place de leader à renforcer pour le FC Bienne. Les Seylandais se rendront à Bavois cet après-midi à 16h en Promotion League de football. Ils ont l'occasion de s'offrir un 4e succès de rang pour ainsi renforcer leur domination au sommet du classement. Et puis le FC Tavannes Tramelan doit lui confirmer. Il se déplace sur la pelouse de la réserve du stade Lausanne-Ouchy à 16h. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale ont quitté la place de Lanterne Rouge la semaine dernière et comptent bien s'en éloigner avec leur affrontement face au 4e de la hiérarchie. Et puis un petit mot de tennis, Victoria Golubic se hisse en finale. La joueuse zurichoise a battu la tête de série tchèque Marie Bouskova 6-1-6-2 ce matin à Zhongjiang en Chine. Elle affrontera la Slovaque Rebecca Sramkova demain pour tenter de décrocher un 2e sacre dans un tournoi WTA. Merci de nous avoir suivis, très belle journée à vous.